Canalem, on aime l'été.
Déjà mercredi, déjà mercredi. Ça file un peu flamenco, je sais pas quoi, salsa, ou en tout cas, ça fait très été, très plage. Bienvenue à Aime l'été, bienvenue à Aime l'été, tout le monde. J'espère que vous allez bien ce mercredi 10 juillet. Bonjour Camille Chai.
Bonjour Emmanuel Robitaille.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Très heureuse de te retrouver en ce mercredi, en cette édition d'Aime l'été, pleine de soleil toujours, mais aussi pleine de sujets super rafraîchissants, légers et un peu glamour aujourd'hui,
aussi.
On va se le dire.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on va parler avec toi de l'intelligence des animaux.
Effectivement, on va avancer pas à pas avec Patrice Cocro.
Oui, on va avoir Karine Côtier qui va nous faire faire le tour du globe.
On plonge dans l'univers de Marianne Farley.
Jean-Sébastien Liberté va nous faire découvrir des chanteurs québécois.
Et Camille, tu nous parles d'un produit miracle qui fait des miracles. J'ai hâte d'en entendre plus. Restez avec nous.
On garde ça pour la fin.
Pour le savoir, bienvenue à M'l'été, tout le monde.
Emmanuel, on parle du lion, mais est-ce que ça fait partie des animaux qui ont une certaine intelligence ou
mais
pas?
Tous les animaux ont une intelligence, ou du moins un minimum de conscience. Et d'ailleurs, à travers le monde, on est en train de s'en rendre compte. Non seulement on est en train de s'en rendre compte, mais on est en train de le reconnaître suffisamment pour créer des chartes.
Oui, OK, on est rendu là.
Créer des chartes de valeurs, créer des chartes qui reconnaissent les émotions, la conscience et la valeur, l'intégrité des animaux. Et le lion est mon signe zodiaque, donc je suis très proche de lui sur un plan autre, mais il ne fera pas partie de notre chronique d'aujourd'hui. La chronique aborde l'intelligence de certains animaux. Tout d'abord, et pour ceux qui, parmi vous, êtes habitués de nous écouter ici au Canalem, je suis à la barre de l'émission Aime la vie En saison régulière, si vous avez manqué, si vous vous questionnez sur que c'est ça, vous pouvez aller voir sur le balado-diffusion. C'est toujours disponible sur le canalm.visevoix.com. Mais je parle souvent des journées mondiales et les journées internationales. Chaque semaine, j'ai un plaisir vraiment fou. Ça finit bien, je trouve, l'émission. C'est léger, puis on a toujours des choses vraiment loufoques, des anecdotes et des journées, des fois, qui n'ont pas de bon sens. Tu dis... pas croire qu'on garde 24 heures pour cette affaire-là. Mais oui, et y a la journée mondiale de l'intelligence animale. Est-ce que tu savais,
ben premièrement? Non, je ne savais pas. Et c'est quelle date? Et c'est aujourd'hui?
Même moi, je ne savais pas, puis j'ai fait à chaque semaine, toute l'année.
Oh, wow.
Je te le dis! C'est le premier samedi du mois de février que c'est souligné. Et pour cet événement-là, quand je me suis promenée, parce que je m'intéresse beaucoup aux animaux dans la vie, c'est... Tous les postes et tous les pays qui s'y sont intéressés, on passe de Illico à TF1 au National Geographic à Discovery Channel qui couvrent cette intelligence animale, non seulement les animaux, mais qui sont intéressés, penchés sur cette intelligence que les animaux ont. Il y a toujours les top 10, ça fonctionne très bien dans la vie, on aime ça.
On aime ça, c'est simple.
Je sais pas si tu me vois venir un petit peu, mais...
Oui. Je t'écoute, Emmanuel.
Ceux qui seront perspicaces me verront venir à 10 000 à l'heure. Il y a un top 10, bien sûr, des animaux les plus intelligents sur Terre. Il n'y a pas consensus. Ah. Par contre, à vos papiers, à vos crayons, on va voir combien vous pouvez en avoir sur 10. Camille, selon toi, quel est l'animal le plus intelligent sur la planète?
Je dirais le dauphin.
Très fort. Deuxième position, par contre. Il y en aurait un plus intelligent. Et je dis « en aurait » parce que moi, je ne prétends pas savoir. Et comme je dis, il y a des petites variantes, mais le premier est assez stable et le dauphin, en deuxième aussi, est assez stable.
Est-ce qu'on parle du singe?
Le chimpanzé. Ah. Exactement, mais t'es super bonne. Donc, 2-2 pour Camille. Ça met de la pression, moi.
Je vous laisse, prendre le relais à la maison.
C'est ça. Vous voyez à la maison. Si vous êtes au travail, travaillez pas trop fort. Vous êtes en break, probablement, ou bientôt, en tout cas, à l'heure qui est là. Oui, alors, en deuxième, en troisième position, c'est un animal dont on se douterait peut-être pas. Un animal qui est beaucoup plus proche de nous, de la basse-cour même, je dirais. C'est-tu la basse-cour? On s'estinait l'autre jour, moi et ma sœur. Qu'est-ce qu'une basse-cour?
La ferme,
oui.
Le cochon?
Oui.
Wouhou!
Que son intelligence a souvent été comparée à un enfant de 3 ans.
Ah, wow!
Et pour établir l'intelligence des animaux, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on va utiliser... C'est des psychologues qui vont vraiment faire des tests qu'on va passer aux enfants dans la psychologie dite développementale. Donc, ils vont aller vérifier, tu sais, Piaget a mis des stades de développement, tant sur le plan cognitif, perceptuel, moteur, dextérité fine, etc. Et on évalue à ce moment-là sur les plans cognitifs où l'animal peut se situer. Mm-hmm. Parce qu'on va se le dire, on parle d'intelligence animale, mais on garde notre définition bien humaine de ce qu'est l'intelligence.
Oui, aussi, c'est vrai.
On l'a dit, Einstein l'a dit, si on calculait l'intelligence d'un poisson à sa capacité à grimper un arbre, on serait un peu à côté de la plaque. Hein? Mais oui, c'est un peu ce qu'on fait, moi, on va se le dire. Mais c'était mon petit apporté personnel. Est-ce que tu saurais en dire au moins 2 autres dans la liste? Parce que là, on en a un 3/3.
Ouais, on va
même essayer. Même si je t'ai pisté un petit peu pour le troisième.
Oui, avec ton aide. Alors, on essaie de continuer. Là, tu me dis qu'on est en 4e position. Oui, quand même. Dans les oiseaux, le perroquet, est-ce qu'il est déjà à cette place-là ou on...
Non, il est en 4e.
Ah, c'est vrai,
position.
mon Dieu.
Voyons, Camille, hey, puis...
J'ai pas vu ta préparation, hein?
La surprise est réelle, parce qu'on s'est vraiment pas parlé avant, non, elle sait pas. Fait qu'elle est vraiment juste très bonne, mais t'es vraiment excellente. Et un autre, juste pour le fun.
Le chien.
Oui, 6e position, la baleine dépasse sur le top 10 que j'ai choisi à travers toutes les listes que je vous ai nommées au préalable. Donc, on retrouve le chien. La pieuvre, étonnamment, l'éléphant s'y trouve, l'écureuil et le chat sont 2 animaux qui reviennent. Les chats sont intelligents. Moi, mère féline, je vais protéger l'espèce que j'aime le plus au monde. Le chat est très intelligent.
Okay, c'est pas
parce qu'il fait pas ce qu'on veut tout le temps que c'est un manque d'intelligence.
Au contraire, il est intelligent, il fait que ce qu'il veut, lui.
Exactement, il est juste bien boqué. Et il y a des malentendus par rapport aux corbeaux, aux pigeons et aux rats. Mais t'as nommé le perroquet le perroquet, on s'est penché beaucoup sur cet animal-là, au point où le corbeau, on l'a calculé qu'il y aurait, parce qu'on a parlé des tests psychologiques, il y aurait un âge similaire à un enfant de 7 ans sur le plan développemental. C'est très vieux, là.
Ben oui.
Et le perroquet, quant à lui, il serait aussi intelligent qu'un enfant de 5 ans. C'est Pas peu dire. Et oui, il s'agit de l'oiseau le plus intelligent, le troisième ou le quatrième plus intelligent animal au monde en fonction des listes qu'on peut trouver. Non seulement, et là on sait qu'il répète des mots, mais non seulement il les répète, mais il les comprend. Également, donc quand il dit quelque chose de gênant pour ceux qui ont des perroquets à la maison, ça se pourrait que ce soit volontaire et qu'il sache exactement ce qu'il est en train de faire.
Il choisit juste son moment.
Ça. Exactement. Il est peut-être juste vraiment en train de savoir ce qu'il fait et ça vous rend mal à l'aise et lui, il a bien du fun. Peut-être, qui sait, je sais pas. Combien de mots crois-tu, Camille, est à la maison? Encore une fois, papier-crayon, mais c'est un chiffre. Combien de mots, de vocabulaire peut-il atteindre le perroquet, selon toi?
Je dirais une vingtaine, mais ça doit être plus.
C'est beaucoup plus. Oh! On est dans les trois chiffres.
Oh, incroyable. Ben, 200?
800 mots.
Ben, incroyable.
C'est 800 mots et le perroquet gris du Gabon, qui est le plus intelligent de tous. D'ailleurs, Alex est un perroquet gris du Gabon qui a été super populaire sur le net, genre comme le Grumpy Cat, le Grumpy Cat. Et lui atteignait jusqu'à 1000 mots. Ce qu'on se rend compte chez le perroquet, c'est qu'il finit par utiliser eux-mêmes les mots qu'ils apprennent dans des contextes extrêmement précis. Alex, dont on vient de parler, il disait « I'm gonna go away », je vais partir quand il était fatigué. Donc, on était capable de se dire « OK, il a compris le mot, il est capable de le placer dans un contexte adéquat. »
Mais donc, il est conscient de ce qu'il ressent.
Il sait ce qu'il dit et il est capable de mettre en mots son monde intérieur.
C'est
énorme, là. C'est gigantesque.
Mais oui.
Ils comprennent, sont capables de distinguer les formes, les couleurs, les matières, la notion du zéro, donc rien, et les notions rudimentaires de nombre. Général, on a fait le test de la permanence de l'objet, qui est un test qu'on fait chez les enfants également, soit de reconnaître qu'un objet existe encore, même si on ne le voit plus. Et on ne naît pas avec ça, nous, les humains. On développe ça à l'âge de 2 ans.
OK.
Et bien, on s'est rendu compte qu'à 21 semaines, les perroquets savaient très bien que si je ferme ma main devant lui puis qu'il ne voit plus la clé qu'il y a dans ma main, il sait pertinemment que l'objet existe encore dans ma main, même s'il ne le voit plus. Donc, il y a vraiment des choses super intéressantes comme ça chez le perroquet. Ils ont une personnalité. Les perroquets mangent beaucoup de fruits, mais ils ont tous leurs fruits préférés. Fait qu'ils ont vraiment des préférences individuelles, pas juste sur le plan de l'espèce. Ils ont des relations sociales extrêmement poussées, sont capables de coopérer ensemble
et
ils sont capables de reconnaître des émotions aussi précises et mixtes et plus complexes que la joie. La surprise, ils sont capables de détecter la surprise chez quelqu'un. Ils sont capables de discernement également. Et c'est impressionnant. C'est très impressionnant.
Rien de moins qu'impressionnant, oui.
Je veux simplement souligner un bon coup de l'humanité. J'aimerais souligner l'initiative du Népal. Ça m'a fait beaucoup sourire parce qu'il souligne les animaux. Et tous les ans, au Népal, il y a un festival qui célèbre les chiens pour les remercier d'être nos amis. Et qui sait, peut-être plus tard cet été, je parlerai de l'intelligence du chien.
Du chien. On attend ça avec impatience. Merci, Emmanuel.
Plaisir.
Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman, une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea, la 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait des jolis cheveux. La la même caresse se vit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie.
C'était une chanson douce d'Henri Salvador. Une chanson douce peut faire plaisir autant à un enfant qu'à un adulte. Une personne, par exemple, qui peut vivre de l'anxiété, hein, ça va faire
partie. Ça calme l'intérieur
beaucoup. Et on a la chance d'avoir au bout du fil avec nous Patrice Cocro, qui est comédien, conférencier, qui est aussi porte-parole de Phobie Zéro. Bonjour, Patrice.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien. Merci.
Alors, on parle aujourd'hui d'un nouveau projet qui s'intitule Pas à pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, alors dès demain, le 11 juillet, dès 11h, je pars de Longueuil au parc Marie-Victorin et j'entreprends une marche de 570 km jusqu'à Rimouski. Le long de la route 132, je vais passer à travers 35 à 40 villes et villages. Le but de ce projet-là qui m'est venu en tête spontanément et intuitivement il y a à peu près un mois, c'est de rencontrer des gens, de solliciter l'hébergement chez les gens pour pouvoir discuter avec eux de troubles anxieux, s'ils en ont vécu, s'ils en vivent, s'ils connaissent des gens qui en vivent, donc de récolter des témoignages visuels ou sonores. J'invite également les gens à m'accompagner pour quelques kilomètres ici et là, c'est le désir pour pouvoir discuter de ça. Et le but de ça, ultérieurement, ce sera un documentaire ou un projet de série télé. C'est une façon pour moi d'attirer l'attention sur ce phénomène dont on entend parler de plus en plus, qui est encore tabou. Ça fait 5 ans que je donne des conférences sur ce sujet. J'ai écrit un livre également en 2014 à ce sujet où je raconte comment j'ai vécu ça, comment je m'en suis sorti parce que je me considère rétabli. Alors, c'est vraiment de canaliser tout ça dans le but d'attirer l'attention et de susciter discussion, échange et témoignages et voilà, partage.
Mais là, Patrice, ce que je comprends en fait, c'est que les témoignages, les gens que tu vas rencontrer, c'est un peu à l'aveugle, c'est un peu aléatoire. Ça peut être des gens qui ont des opinions très, très limitées sur l'anxiété, qui ne savent pas ce que c'est. Ça peut être n'importe quoi, là.
Oh, ça peut être n'importe quoi, mais pour répondre à ça, moi, vive l'intuition.
Ben oui. Et Dieu sait que t'en as beaucoup.
J'ai quand même des antennes, beaucoup.
Oui, ta note est pas pire.
Oui, j'étais plus sur le mode rationnel. J'appelle ça les 3 R, rationnel, réaliste et raisonnable. Ce qui m'a aidé, puis beaucoup de nuit, là, je vous dirais. Mais le mode intuitif permet de corriger le tir et d'être à la bonne place, au bon endroit. On l'oublie beaucoup. On devrait peut-être en parler davantage dans les écoles. Ça et la respiration. D'ailleurs, parce que tout ce qui est anxiété relève de l'encombrement puis du manque d'espace et de respiration. On en reparlera tout à l'heure.
Oui.
Mais dans ce cas-ci, la réponse est tellement incroyable. Et la sympathie, c'est hallucinant. Depuis quelques jours, là, la réponse est extraordinaire. Donc, si je regarde de façon rétroactive ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu, ça ne va être dans ce cas-ci que du bonheur et que des rencontres. Et pour moi, c'est l'équivalent d'un voyage. Moi qui voyage de plus en plus, j'étais très affecté autrefois parce que j'avais peur de l'avion, j'avais peur de tout, là, finalement. Et mon mari est agent de bord, peut-être que la vie est bien faite.
Hein. Fait que
je suis allé au Japon, en Chine, tout ça. Fait que c'est un voyage intérieur, extérieur, c'est une rencontre. Et en fait, c'est littéralement de mettre la table pour donner un espace qui va générer, en fait, beaucoup de moments forts, charnières.
Oui, mais c'est très symbolique. Hein.
Complètement. C'est à la fois symbolique et très concret, organique.
Et oui, justement. Et est-ce que tu sais déjà s'il y a des personnes qui ont déjà prévu croiser ton chemin, qui t'ont dit « oui, on va se croiser à tel endroit »
Oui, j'ai même pas commencé la marche et déjà, il y a à peu près la moitié des gens en termes d'hébergement que c'est réglé.
Ah, wow.
Il y a une municipalité comme Baie-du-Fèvre qui veut organiser un événement pour mon arrivée. On est en train d'orchestrer un paquet de trucs. Là. Ça va être très ludique aussi. On a beau parler d'anxiété, c'est pas pour autant que ça va être lourd.
Ah non, c'est le fun, l'anxiété.
Non, c'est pas morbide ou lourd.
Mais non.
Ça doit être porteur parce que je fais beaucoup la distinction, moi, entre qui nous pèse dans la vie individuellement, ce qui nous porte. Mm-hmm. Et ça, ça fait partie des choses dont je parle en conférence. Je dis, c'est facile de s'asseoir puis de faire un peu sur une feuille le tri entre les choses qui nous pèsent, qui nous portent autant en termes d'objets que de relations, mm-hmm. que d'histoire et tout ça. On le sait immédiatement, pas besoin d'une maîtrise ou d'un doctorat pour savoir ce qui nous pèse ou ce qui nous porte dans la vie. C'est déjà un très bon indicateur. Alors, dans ce cas-ci, ça va générer justement des éléments porteurs. Puis, et ça va délier des langues également. C'est ça le but, c'est ce que je fais en conférence. Dès que la portion de discussion commence, là, après la première levée de main là, ou de doigt où tout le monde hésite, mm-hmm. après ça, c'est une déferlante de témoignages et ça ne finit plus.
Ben, j'en doute pas, mais ça fait du bien à tout le monde parce que justement, quand on parle d'encombrement, oui, ça va complètement toucher la respiration. Tout le monde devrait être conscient de leur propre rapport à la respiration. On a plein de choses à apprendre là-dessus, je suis sûre et certaine.
Bien, complètement. C'est notre, je dirais, avec les années, les réflexions, les mises en perspective, j'ai réalisé à quel point nous étions dénaturés. Puis moi qui vis à la campagne depuis 2 ans, le changement est majeur. J'étais au centre-ville de Montréal, je tripais beaucoup sur Montréal. Bon, Montréal, c'est le fun pour le travail, mais je vois le fossé ou le clivage qu'il y a entre la campagne et Montréal. Et pour moi, un ciel étoilé que beaucoup de gens ne voient pas, le silence, l'espace, le rythme ou le ondulatoire de la nature, c'est vraiment, on est relié à ça. Et donc, combien de gens sont dénaturés, même sans le savoir, mais leur respiration est courte, ils sont encombrés, agités, fragmentés dans leur vision de la réalité.
Oui.
Puis là, tu dis, ben un instant, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se déposer, d'arrêter, puis de faire le point sur l'état d'être?
Il faut, sinon ça va rester.
Absolument, mais tôt ou tard, le malaise devient si grand qu'on est appelé, ou les signaux sont si forts, que puis la machine est bien faite, la machine humaine,
okay,
qu'on
oui.
est, je veux dire, par la force des choses, la vie nous indique de s'arrêter, de respirer, puis de corriger le tir.
Mais tu viens de nommer quelque chose de super important, et je t'envoie la question, est-ce que tu crois que l'anxiété serait une façon de se parler à nous-mêmes, ce signal-là qui dit, là, je manque d'air, puis je te parle?
Je pense que oui. Absolument.
Est-ce que c'est un des aspects positifs de l'anxiété? Parce que c'est intéressant de savoir.
Oui, totalement.
Ben oui, absolument. Comme dans n'importe quoi dans la vie, quand on n'est plus en équilibre, parce que pour moi, c'est un principe d'équilibre. Dès qu'on n'est pas en équilibre, on chute. C'est exactement l'image d'un artiste de cirque. À force de chuter, de se relever, il cultive la maîtrise. Vous savez qu'il y a une différence fondamentale entre le contrôle et la maîtrise. Les gens qui sont les plus contrôlants sont ceux qui maîtrisent le moins leur
Voilà, ils ne sont pas en maîtrise.
Ils ne sont pas du tout en maîtrise. Et il y a une différence, tout comme il y a une différence fondamentale entre la sécurité et la liberté.
Mm-hmm.
Les gens sont en recherche de sécurité.
Toujours.
On vit dans un monde où on n'entend parler que de terrorisme. Et ça, moi, j'ai un petit peu marre. Là. Je veux dire, oui, il faut être prudent, mais pas virer fou. Puis moi, je suis allé une semaine après les événements du Bataclan à Paris. Je suis allé là à Paris. Puis les gens me disaient, ben voyons donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te rends-tu compte? J'ai eu aucun problème. J'ai pris le métro 40 fois.
On Bravo.
Quand notre heure est venue, elle viendra. Sinon, on ne fait rien. On ne sort pas de chez soi.
Tout à fait vrai. C'est très sage, Patrice, comme attitude. Et puis, en fait, je voulais savoir, parce qu'en fait, l'entrevue tire à sa fin, mais je veux absolument que les gens... Ça passe trop vite, hein?
C'est anxiogène, ça.
Ben voilà, mais on va essayer de faire ça de façon positive.
Mais c'est le 11 juillet,
voilà,
prochain à 10h au Parc Marie-Victorin de Longueuil, c'est ça?
Voilà.
Exactement. Et vous pouvez me suivre sur patricecocro.com et les réseaux sociaux.
Magnifique.
On t'encourage. Moi, je t'encourage à la maison, mais beaucoup, beaucoup avec mon cœur et en pensée.
On te souhaite un magnifique voyage, Patrice.
Ça me touche beaucoup. Je suis très, très, très emballée par la réponse.
Merci.
Bonne journée, bravo, puis bonne chance.
Oui, merci. Bye-bye.
Bye-bye. C'était « Je suis de n'importe où » de Phil, une nouvelle chanson hein, qu'on vient juste de découvrir.
On peut découvrir sur palmarèsadisque.qc.ca d'ailleurs également et tous les nouveaux artistes, les nouvelles chansons, les nouvelles sorties, vidéoclips, CD
bien.
Au Québec.
Magnifique.
Single. Tout.
Là, donc on est dans la chanson, mais je vous amène un petit peu dans un détail un peu plus. On a parlé d'ailleurs aussi tout à l'heure d'animaux. Là, je vous parle d'araignées. En fait, il y a une arachnologue qui explique pourquoi il ne faut pas tuer les araignées. C'est tuer une araignée, c'est de prendre le risque de se faire envahir par les insectes. D'ailleurs, on dit que parmi toutes les espèces du règne animal, l'araignée est franchement pas la plus appréciée des êtres humains. Hein, quand elle croise le chemin d'un être humain, la plupart du temps, elle finit par être malheureusement écrasée. Mais le simple fait que les araignées existent devrait suffire à nous convaincre de les préserver. Parce qu'en fait, ça aide à réguler les populations d'insectes, parce que sans elles, on ne manquerait pas d'être envahi par même nos champs et nos maisons. Donc, c'est des petites bestioles qu'il faut apprendre à apprécier, même si ce n'est pas toujours le cas. Donc, un petit pensez-y bien.
Vous écoutez Aime l'été.
On est mercredi, mais la plupart, pas la plupart, mais beaucoup d'actuellement être en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, vous allez l'être bientôt, à moins que ce soit déjà fini. Si c'est le cas, je suis désolée de tourner le fer dans la plaie si vous êtes de retour au travail depuis deux jours. N'en demeure pas moins que les week-ends arrivent assez rapidement, quand même, déjà la moitié de la semaine de fait. Et le week-end prochain, on s'ennuie pas à Montréal parce que les week-ends du monde, ça bat son plein actuellement. Et Kevin Gauthier va venir nous en parler. Et on va faire un gros plan sur la magnifique Marianne Farley dans quelques instants. Restez avec nous.
You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fold it up, oh-oh, and if you fold it up, eh-eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh-eh. Time for Africa. Mm-hmm. your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. For Africa.
I will have a journey, biggie, biggie mama, one A to Z. Bati, so sell my journey, biggie, biggie mama, from East to West. Bati, waka, waka, my A, A. Waka, waka, my A, A. Tengis is so mazibu, yeah. Cause this is Africa.
C'était Waka Waka de Shakira qui nous amène un petit peu en Afrique. On parle d'un voyage autour du globe. Ici, maintenant, on parle des week-ends du monde avec Kevin Gauthier, qui est conseiller aux communications en marketing et développement, qui est aussi porte-parole de l'événementiel au Parc Jean Drapeau. Bonjour, Kevin.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, et toi?
Oui, merci.
Alors, en quoi consiste ce bel événement, les week-ends du monde?
Les week-ends du monde, cette année, c'est la 15e édition. Ça se passe sur deux week-ends. Le premier vient de passer, c'était les 6 et 7 juillet. Le prochain, la deuxième partie, c'est 13 et 14 qui s'en viennent. C'est un événement gratuit, c'est un événement grand public. C'est, moi, je le décris comme un univers de découverte, de partage culturel. Et somme toute, ça ressemble à ça, là, vite fait. Là, je peux rentrer dans le détail éventuellement. Là.
Mais moi, j'aurais une question sur le plan de la programmation, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à parler, donc comment on va là, tout ça. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est qu'il y avait comme deux volets. Un volet familial qui se passait entre 14 et 18 heures et un volet adulte. Et là, ma question est, qu'est-ce qu'on entend par volet adulte au week-end du monde?
Ben, je ferais pas nécessairement de distinction tant que ça, en fait. C'est vraiment un événement grand public. Tout le monde peut y trouver son compte, là. Autant adulte que jeune, que famille. Il y a vraiment, là, toute la programmation, en fait, c'est une programmation, si on veut, qui est active, là. C'est-à-dire, tu rentres sur le site, puis tu t'imprègnes de qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, je pense que n'importe qui peut y trouver son compte ou trouver un intérêt, là. Une fois que tu es sur le site, là, c'est ouvert de 14 à 23 heures, donc il y a de l'animation toute la journée, ça n'arrête jamais. Puis tu sais, la dynamique change aussi en fonction du moment quand tu viens dans la journée. C'est sûr que dans l'après-midi, c'est un peu plus familial, puis en soirée, ben là, c'est un peu plus festif. Donc.
Et donc, quel est le programme pour ce week-end, donc les 13 et 14 juillet, parce qu'il y a plusieurs pays qui vont venir se donner en spectacle?
Effectivement, ben c'est ça, en fait, pour vous donner une idée un peu plus de comment ça se passe une fois qu'on arrive sur le site. Cette année, c'est la première fois que ça se passe à Espace 67.
Okay.
C'est le nouveau site événementiel du Parc Jean Drapeau qui a été inauguré en mai. Donc, un tout nouvel amphithéâtre, il y a une nouvelle allée centrale, il y a un restaurant maintenant aussi, pavillon d'information et tout ça. Donc, le site a vraiment été revampé. Puis, pour les gens qui connaissent les week-ends du monde, bon, on les invite à venir redécouvrir cet événement-là dans ce nouveau panorama-là.
Oui,
exactement. Donc, le panorama sur la ville de Montréal est incroyable. Le nouveau site aussi, on a parlé d'accessibilité universelle un peu quand on n'était pas en onde. Ben, ça fait partie des nouveautés.
Par accessibilité universelle, on entend que les personnes à mobilité réduite peuvent s'y rendre facilement.
Exactement.
Yes.
Ça a été conçu, pensé aussi et pris en considération en ce moment, là, dans la création de ce nouveau site-là. Puis en termes de programmation, ben, cette année, ben, en fait, cette fin de semaine-ci, les pays à l'honneur, le 13, ça va être la Jamaïque, la région du Maghreb et le Venezuela.
Mmh.
Et puis le 14 juillet, ça va être la Colombie, Cuba et la Chine. Donc ça va être pour la programmation qui s'en vient le 13 et 14 juillet.
Et quel, est-ce qu'il y a des... Parce que là, c'est quand même plusieurs pays qui viennent. Comment vous, vous rentrez en contact avec ces troupes de danse ou ces artistes? Est-ce qu'il y a une barrière de la langue? Est-ce qu'il y a eu des anecdotes même peut-être? Parce qu'ils doivent partir de chez eux pour venir ici. Je ne sais pas si vous avez des choses
est-ce
à raconter.
Est-ce qu'il y a eu des malentendus? C'est ça qu'on veut savoir.
Ben, en fait, ces gens-là, c'est des communautés culturelles qui sont déjà établies à Montréal. Ah. Et puis, comment ça s'est passé, en fait, c'est que l'événement des Week-ends du Monde là, est né du fait que ces communautés-là voulaient créer leur propre festival dans la ville de Montréal. Et puis, d'année en année, ces événements-là grossissaient. Par exemple, tu avais la Jamaïque qui faisait son événement au parc Jeanne-Mance. Puis, ces événements-là grossissaient de plus en plus. Puis là, à un moment donné, la ville commençait à donner du financement ici et là. Et là, ça devenait un peu... Je présume, j'étais pas là, mais je présume que ça devenait un peu chaotique. Et puis, la ville a décidé de rapatrier tous ces événements-là sous une bannière qui s'appelait à l'époque le Festival interculturel de Montréal. Mm-hmm. Et là, ça s'est tombé sous la gouverne du parc Jean Drapeau. Et maintenant, bon, nous, on s'occupe de gérer la programmation avec ces différentes communautés-là. Donc... on a une feuille de critères d'admissibilité, ces promoteurs-là les remplissent et ensuite, bon, on travaille de pair avec eux. Eux, ils montent toute la programmation, là, c'est-à-dire tout ce qui est spectacle, de musique, de danse, les restaurateurs qui vont être sur place. Puis nous, on offre toute la section infrastructure, le site, la sécurité, les premiers soins, les formations. Donc, il y a vraiment une belle collaboration. Puis c'est un peu comme ça que ça se fait. Là. Donc, au fil des années, ben, il y a ces liens de confiance-là qui se sont forgés, je dirais, avec ces différents pays-là.
Oui, qui reviennent, c'est un plaisir pour eux de revenir à chaque
vraiment.
Fois.
Puis d'année en année, en fait, ils gagnent en expérience aussi. Fait que, tu sais, ils sont capables d'aller chercher de plus en plus d'artistes. C'est beaucoup d'artistes locaux. Des fois, ils sont capables d'aller chercher des gens à l'international aussi. Wow. Donc, tu sais, ça crée vraiment un engouement. Là,
oui, ils vont avoir de plus en plus de fans. La foule va être
plus
grande de fois.
Le pôle d'attraction devient plus fort, là, c'est sûr.
Et toi, personnellement, est-ce que tu as un coup de cœur? Est-ce que tu as eu le temps de regarder chaque numéro, chaque spectacle?
En fait, je dirais mon coup de cœur, c'est dur de décider encore un pays parce que je ne les ai pas encore tous vus. Évidemment, il y a encore la moitié de la programmation à venir. Là. Mais ce que j'ai vu, en fait, qui était le plus intéressant, c'est d'arriver là et de voir ces communautés-là célébrer leur culture. Puis
c'est tellement beau, coloré et merveilleux. Puis le fait qu'on voit que c'est plein d'organisateurs qui se sont unis autour d'un même événement, c'est magnifique.
Puis tu sais, de voir les gens, ils entendent leur musique dans leur langue, ils chantent les paroles. Puis d'être témoin de ça, là, tu sais, c'est vraiment là, je pense que cet événement-là, en fait, il existe pour ça. Puis c'est d'être témoin, en fait, puis de partager ces traditions-là puis cette culture-là avec ces différentes communautés-là. Puis ça crée vraiment un sentiment
d'appartenance. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui.
Est-ce que vous avez l'impression que les gens apprennent des choses? Est-ce qu'il y a un aspect pédagogique relatif aux différentes cultures qui sont présentes pendant ces week-ends-là où les gens qui se pointent, c'est des gens qui sont déjà ouverts? Au final, est-ce qu'on peut briser des préjugés? Est-ce qu'on peut apprendre des choses?
C'est ça, c'est la vocation de cet événement-là. C'est la vocation de cet événement-là, c'est vraiment d'unifier, en fait, on va dire le Montréalais de souche avec les différentes communautés culturelles qui sont à Montréal, puis de les apporter ensemble dans cette espèce d'univers de découverte-là, puis de partage culturel. Puis ça, ça se passe. Puis tu sais, la culture, je pense que c'est la façon la plus pure, en fait, d'unifier différentes communautés ensemble. Puis c'est ça qui est bon, en fait, de cet événement-là, parce que c'est la base, tu sais, les gens, ils viennent, ils montrent leur musique, il y a des spectacles de danse, la bouffe, tu sais, la bouffe, c'est tellement, c'est universel.
Ah, c'est communicateur,
là. Oui. Fait que, tu sais, les gens viennent là, puis ils trippent à découvrir plein de choses que tu connais pas, puis des fois, ça crée des échanges super naturels aussi entre différentes personnes de différentes communautés.
Ben oui, totalement. Puis un détail technique, si jamais il y a de la pluie, qu'est-ce que vous faites?
L'événement a toujours lieu quand même, malgré la pluie. Là, on se souhaite du beau temps, bien évidemment. Mais par exemple, le site d'Espace 67 a été pensé en conséquence. Donc, c'est de la criblure de pierre au sol. Donc, ça ne devient pas nécessairement... La grosse boîte, exactement. Fait que, tu sais, l'événement a toujours lieu, là, malgré la pluie. Moins que ce soit conditions désastreuses.
Trop important, mais OK. Donc, on encourage vraiment les gens à y aller s'ils sont intéressés. Pour rappeler l'endroit, c'est donc Espace 67 qui se trouve dans les parcs du parc Jean Drapeau.
Oui, l'Espace 67, en fait, est aménagé là, directement quand vous sortez du métro du parc Jean Drapeau. Vous êtes sur le site d'Espace 67, puis ensuite, vous suivez, vous allez vers le fleuve et vous allez tomber sur le site des Week-ends du Monde. Tout est super bien affiché. Vous ne pouvez pas vraiment le manquer.
Et on peut trouver aussi les informations sur le site www.parcjeandrapeau.com.
Oui, toute la programmation, en fait, en détail avec la liste des artistes qui vont performer, les pays présents. Vous allez au parcjeandrapeau.com sur la page des Week-ends du Monde et toute l'information s'y trouve.
Et non seulement c'est accessible universellement, mais Cette année, vous avez été non seulement très généreux, mais vous avez été aussi extrêmement consciencieux. Vous avez pris des mesures particulières.
Oui, effectivement. En fait, cette année, le parc s'est fixé des objectifs pour une saine gestion éco-responsable de l'événement. Et puis,
bravo!
Oui,
tout le monde, c'est peu de déchets, bravo!
Donc, on a travaillé, on a mis beaucoup de critères en place, donc de réduire la production de déchets à 150 grammes par individu sur le site par jour, et, des mesures d'économie d'énergie et d'eau aussi qui sont mises en place. Tout ce qui est dans le fond le tri des déchets avec le compostage, le recyclage et tout ça, donc c'est toutes des nouvelles mesures qui ont été mises en place. Puis c'est pour répondre à la norme BNQ, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, là. Il y a un chiffre après, mais c'est pour répondre à cette norme-là, donc on va être certifié après ça événement éco-responsable, donc le parc est très fier en fait de cette nouvelle initiative-là.
Bravo et merci. Kevin Côté d'être venu nous voir.
Ça m'a fait plaisir, merci de m'avoir reçu, puis passez nous voir au parc Jean-Drapeau ce week-end.
Absolument, merci.
Maman, si tu me voyais, tu serais fière de ta fille. Quand je sors le soir sur Sunset Boulevard, tous les gens qui passent me prennent pour une star. Les vrais stars sont rares à Hollywood. Je me suis acheté une robe décolletée en cœur comme Marlène.
Hollywood freak, Diane Dufresne. C'est pas parce qu'on va à Hollywood qu'on est freak quand même. On soit des gens ici qui ont été faire un tour et qui sont revenus sains d'esprit quand même. Et c'est le cas de Marianne à parler. Comment ça va, Marianne?
Ça va bien, merci beaucoup. Je pense que je suis saine d'esprit.
Ben, des fois oui, des fois non, comme tout le monde. Hein. Tellement contente de te recevoir en studio ici aujourd'hui. Gros plan sur toi, mais tu sais, sur ce que tu fais également. On va parler beaucoup d'inspiration, plusieurs choses à regarder avec toi d'ailleurs. T'es revenu, on a parlé d'Hollywood Freak, mais c'est parce que t'as été faire un petit tour aux Oscars avec ton film Marguerite qui a été en liste en 2018. Ben, 2019. Ouais. Est-ce que t'es bien revenu physiquement, oui, mais émotionnellement?
Oui, mais ça a été vraiment une montagne russe pour moi. En fait, les deux dernières années, je dirais. Mais oui, je suis revenue, mais ça a ouvert des portes pour moi aussi. Donc, j'ai beaucoup de travail, en fait, devant moi. J'ai beaucoup de choses qui se trament, beaucoup de choses qui se brassent. Plein de choses dont je ne peux pas parler encore, malheureusement. Mais c'est ça, je suis en soumission aussi parce que je suis en recherche de financement pour mon premier long-métrage. Donc, c'est sûr que ça n'a pas arrêté, finalement. Mais émotivement, oui, je suis quand même bien.
Quand on a plus de portes qui s'ouvrent, est-ce que ça c'est synonyme d'avoir plus grand discernement? C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les portes qui sont bonnes. Est-ce que tu as des grosses décisions à prendre?
Bien, en fait, moi, ce qui est très important, puis il faut que je me rappelle à chaque jour, puis quand je lis un scénario, c'est Marguerite, c'était quelque chose qui était très près de moi, ouais, au niveau de la sensibilité, au niveau du message du film. Et donc...
On se rappelle qu'on parle que c'est très intergénérationnel, on parle de la communauté LGBT, on parle d'être lesbienne, c'est bisexualité, etc.
Oui.
C'était profond.
Bien, c'était profond. Ça me prend une certaine profondeur. Il faut que j'appuie complètement le message du film aussi.
C'est une connexion.
Ça me prend une connexion, absolument. Puis une connexion émotive. T'sais, moi, les histoires que j'ai le goût de raconter, c'est beaucoup en anglais, je dis « human connection », c'est les relations entre les êtres humains, puis comment on peut changer la vie de quelqu'un. Juste
avec un simple contact, un échange,
simple
un
geste,
moment.
Exactement. Ouais. C'est ce qui m'inspire dans la vie. Donc c'est ça, il faut que je reste très près de ça. Je dis pas que je ferai pas un film d'horreur un jour, mais en même temps, parce que je suis en train d'en lire un en ce moment, puis je fais comme, oh, c'est-tu vraiment ça que j'ai le goût de faire?
On comprend que ta décision n'est pas prise pour ça, là, par exemple.
Ben, disons que je risque de passer, mais
qui sait?
Mais ça pourrait, faudrait qu'il y ait un message en dessous, en quelque part, mm-hmm, qui m'atteint.
Téléfilm Canada a quand même une des portes qui s'est ouverte, on va se le dire. C'est Téléfilm Canada qui a annoncé qu'elle investirait 1,3 million de dollars dans la production de 3 longs-métrages au Québec. Parce que la culture au Québec, au Canada, ça a fait du tirage de couverte. Il y a eu des frustrations, mais il y a des bonnes nouvelles. T'en as reçu une bonne. Tu fais partie des 3 projets qui ont été retenus et qui vont être financés. On parle du film « Au nord d'Albanie ».
Oui.
Ça parle de quoi, ce film?
Au nord d'Albanie, c'est un film bilingue. Moi, mes parents viennent d'Ottawa. Donc, dans ma famille, tout le monde est bilingue. Le bilinguisme est très important pour moi. En tout cas, il fait partie de ma vie quotidienne. C'est l'histoire d'une mère monoparentale qui part du Québec et qui se sauve d'une catastrophe que c'est à son adolescente. Son adolescente vient de faire quelque chose d'horrible et elle part, elle se sauve. En fait, c'est un film sur la fuite. Et sa voiture, à part pour rejoindre le père de sa fille à Miami, et la voiture tombe en panne dans un petit village dans les Adirondacks. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à New York en voiture.
Oui. Oui.
Et tu sais, il y a comme un 2 heures où le cellulaire ne rentre pas, où tu ne veux pas tomber en panne. Moi, ça m'est arrivé de tomber en panne avec mes deux garçons. Pas là, précisément, mais en revenant de chez mon frère aux États-Unis et de me rendre compte à quel point on est vulnérable, mm-hmm, aussi quand on est seul, une mère seule avec ses deux enfants. Donc, c'est un peu ça a été comme l'élément déclencheur pour écrire cette histoire-là. Et c'est ça, elle va être confrontée, elle va être prise dans ce petit village-là, sa voiture, ça va prendre 5 jours avant qu'elle se fasse réparer. Il y a aussi, c'est beaucoup à propos des personnages qu'elle va rencontrer, comment ces personnages-là vont l'influencer, elle, dans sa vie, ainsi que ses enfants.
Est-ce que ça va représenter ce qui pourrait se passer réellement si quelqu'un vivait cette situation-là, par rapport aux personnes qu'elle va rencontrer?
Oui, absolument. En fait, elle rencontre le mécanicien qui c'est aussi sa propre histoire de fuite. Donc, c'est encore là ce que je disais tantôt, c'est des êtres humains qui se rencontrent et qui apprennent les uns des autres.
Et sur un thème qui peut se partager à travers tous les humains également, parce qu'on a tous une histoire de fuite, tu veux bien de le nommer. Donc, au nord d'Albanie, ça a été puisé à l'intérieur de toi, dans ton entourage, sur le plan social?
Oui, je dirais absolument. Absolument. Je l'ai écrit avec mon ex, en fait, ce qui est très drôle parce que quand ça s'est produit, on était ensemble à l'époque, mm-hmm, et il est venu me chercher. Il était obligé de venir me chercher parce que la voiture, ça a pris une semaine avant que ça qu'on puisse l'avoir. Mm. Et je lui ai dit, ça n'a pas de bon sens, ça a coûté une fortune. J'ai dit, il y a un cadeau là-dedans. Il y a un film là, on va écrire un film, on va utiliser ça pour faire quelque chose de beau, pour créer quelque chose.
C'est co-scénarisé avec Claude Brie et co-produit avec Benoît Beaulieu.
Oui.
C'est quoi les plus grands avantages de travailler à deux sur ces deux chapeaux-là et les plus grands défis?
Moi, j'adore travailler en équipe.
Ouais.
Je trouve que le défi est de travailler seul pour moi. Je fais du cinéma parce que j'aime travailler en équipe. On dirait que je tourne en rond. Seule, je tourne en rond. Et Marguerite, ça a été très, très, très ardu. L'écriture seule, je trouve ça très ardu. C'est pour ça que je le fais lire à bien du monde. Ça me brasse. J'ai des commentaires positifs, des commentaires négatifs. Pour moi, c'est la meilleure façon de travailler. Donc, il n'y a pas tant de défis. Bon, c'est sûr que... Oui, il y a quand même des défis.
Je peux pas craindre. Oui,
j'étais là, ah, attends, je vais laisser passer, c'est mon ex. En plus, il y a des moments.
Mais justement, parce que Annie, c'est une maman d'enfant.
Oui.
C'est une femme. Est-ce qu'en tant que toi-même, en tant que femme, en tant que maman, est-ce que tu avais une espèce de droit de veto sur ses répliques, sur l'écriture du texte d'Annie?
Je dirais, ça s'est fait de façon très organique. Claude est très bon.
Puis il te connaît un peu aussi.
Puis il me connaît très bien. En fait, Annie me ressemble un peu trop à mon goût. Dans certaines réactions.
Note à tout le monde, si vous allez voir normalement Annie, vous allez savoir à qui vous avez affaire.
Mais il est vraiment très bon pour travailler les personnages d'enfants. Il y a des conversations extraordinaires avec son fils de 9 ans, qui est un Félix, qui est comme une espèce de personnage beaucoup trop mature pour son âge, mais qui est en fait presque le papa, c'est comme s'il remplace le père dans cette situation-là. En fait, les deux enfants n'ont pas le même père non plus. Ça, c'est important. Les deux, lui, son père est décédé du cancer. Donc, je pense que ça l'a fait grandir très, très vite. Mais c'est ça, Claude a vraiment un talent comme j'ai jamais vu pour écrire des personnages d'enfants, d'adolescents. Puis moi, c'est plus la trame émotive qui est ma force. Donc, à deux, on fait une super bonne équipe. Ouais.
Et c'est au nord d'Albanie que ça finit par germer. Ça va nous donner, en tout cas, un film très personnel, mais à la fois où tout le monde peut se raccrocher avec une petite touche où on a l'impression d'aller visiter et d'aller mieux te connaître, peut-être. Et pour mieux te connaître, je te propose, avant que tu quittes, avant que tu nous quittes, reste 4 belles minutes pour passer à un quiz flash inspiration.
Ouais. J'ai hâte de voir ça.
Quiz flash inspiration avec Marianne. Parlez, Marianne. Qu'est-ce qui est le plus dur? Être une inspiration ou être inspirée?
Être une inspiration.
Qu'est-ce qui est le plus inspirant? Jouer ou réaliser et produire? C'est super chiant.
Je dirais réaliser.
À quel moment de la journée ou de l'année es-tu le plus inspiré?
Wow! Quand je suis très anxieuse.
C'est vrai?
Oui.
Donc, t'es bonne pour écrire quand
mais l'inspiration vient quand je vis des moments difficiles. L'inspiration vient, malheureusement.
Au contraire, quel est le pire moment pour toi pour être inspiré? Le moment où t'as le moins d'inspiration dans la vie?
Quand je suis trop heureuse. C'est horrible, dire ça comme réponse. Mon subconscient parle vraiment trop fort.
Qu'est-ce qui coupe ton inspiration?
Ma tête coupe mon inspiration. Le contrôle, vouloir contrôler, ça coupe mon inspiration.
Qu'est-ce que tu aspires inspirer chez les téléspectateurs à travers ton art?
Moi, je veux ouvrir des cœurs. Je veux toucher les gens. C'est ma mission, inspirer, toucher les gens, c'est ma première mission.
Et si on n'a pas encore été inspiré par toi, on va aller écouter Marguerite et on attend au nord d'Albanie avec impatience. Inspire. Expire. C'est fini, ça a bien été. Merci, Marianne Charlet.
Merci, Emmanuel.
Merci beaucoup.
Merci, Camille.
Merci à toi.
On vient de parler avec Marianne Farley qui aime son travail, qui est inspirante, qui est inspirée en le faisant. Saviez-vous qu'un salarié heureux est 2 fois moins malade, il est 6 fois moins absent, 9 fois plus loyal, 9 fois plus loyal, je vais répéter, 9 fois plus loyal, 31% plus productif et 55% plus créatif. Donc, nécessairement, il serait temps qu'on se pose la question. Si vous êtes un employeur, comment pensez-vous traiter vos employés? Est-ce que soudainement, on a une envie de bonifier tout le monde? Est-ce que soudainement, vous avez envie de rajouter des vacances, couper les chiffres, je ne sais pas? Et au contraire, vous-même, en étant salarié, en étant un employé, comment êtes-vous traité? Comment vous sentez-vous créatif, inspiré au travail? Qu'est-ce que votre employeur pourrait faire pour l'améliorer? Moi, je propose une petite boîte à suggestions, des petits papiers anonymes, bien sûr, oui. Dedans. Et qui sait, peut-être que votre réalité va changer assez vite. Du moins, on se le souhaite tous. Mais pas ici, quand même, parce que nous, on est bien, n'est-ce pas? Ah! Voilà!
Restez des nôtres parce qu'on a la chronique musicale de Jean-Sébastien Laliberté qui nous attend et on va vous parler, je vais vous parler des bienfaits d'un petit produit miracle, le bicarbonate de soude.
La vache!
Oui, c'est ça!
Vous écoutez Aime l'été.
Aime l'été encore pour 30 minutes. Emmanuel Robitaille, Camille Chay avec vous. J'espère que vous appréciez cette édition d'Aime l'été tout comme nous parce qu'on a des gens en studio, ça bouge, c'est le fun. On parle d'animaux, de films, de festivals du monde. On va un peu partout et on n'a pas fini. On continue de parler de ce que moi, ce que j'aime le plus, c'est la musique.
La musique,
c'est pas,
Emmanuel.
C'est
oui.
Égal avec les animaux, mettons. Je te dirais qu'on est pile dedans. On vous a préparé un beau topo avec Jean-Sébastien à la Liberté, mais juste avant, on écoute la Madonna, Madonna avec la chanson Music.
We'll be right back.
musique, c'est ce qu'on fait chaque semaine, chaque mercredi. Tu nous gâtes Jean-Sébastien, La Liberté, salut.
Salut.
Et cette semaine, tu nous gâtes un peu plus que la semaine passée, parce que la semaine passée, on était gâtés, mais on était gâtés avec des verres d'oreilles, ce qui a plu et déplu, des centaines de courriels qu'on a reçus.
À quel point on s'est gâtés pour rire.
Ouais, c'est ça.
Oh, padoum.
Donc, non, tu nous amènes ailleurs cette semaine.
Oui, oui, oui. Ne changez pas de chaîne. Il n'y aura pas de chanson Velcro.
N'ajustez pas votre appareil.
Deux albums, deux nouveautés, deux personnes qu'on peut qualifier de la relève. Tout d'abord, Nicolas Gémus avec un premier album qui s'intitule Hibou, qui est paru le 21 juin dernier sur étiquette La Tribu. Nicolas Gémus, c'est qui? Un gars de 22 ans qui est originaire des îles de la Madeleine. On l'a connu notamment en 2017 au Festival international de la chanson de Granby. Et il a cumulé quand même les honneurs à cette édition-là. Il a remporté la chanson Coup de cœur. Il a donc le prix de la seconde chanson Coup de cœur. Le prix Télé-Québec qui lui a permis une participation à Belle et Bomme. Le prix Les Alliances du Festival de la chanson de Tadoussac. Le prix Vitrine Rossec 2018. Le prix Vitrine Contact Ontarois. Le prix Accès Culture qui lui permettra de compléter une tournée des Maisons de la Culture de Montréal, sans oublier un séminaire d'écriture avec Francis Cabrel, ce qui est quand même pas peu dire. Et ça fait un total de 140 000 $ en bourse. Donc, tu sais, ça aide quand même à bien commencer
pour un
une
album,
carrière.
C'est une bonne subvention. Wow. On peut dire qu'il est déjà un des préférés du public québécois. Et c'est aussi un protégé de Stéphane Rancourt, je crois, qui est à la réalisation de cet album-là.
Effectivement, Stéphane Rancourt, à qui on doit notamment le premier album du groupe The Seasons. Mm-hmm. Le groupe, on connaît surtout Hubert Lenoir mm-hmm. par les temps qui courent.
Absolument.
Mais premier album excellent de The Seasons. Il a également remporté des prix pour l'album du paysagiste. Il a travaillé avec Pascal Picard à plus d'une reprise. Ouais. Premier album qui dure un peu plus de 30 minutes. Nicolas, lui, est un auteur, compositeur, interprète. Donc, il chante et il joue de la guitare acoustique sur cet album-là. C'est un folk très bien orchestré. Donc, on retrouve une quinzaine d'instruments sur l'album, qui ne sont pas tous présents sur chacun des morceaux, mais ça fait quand même un bel environnement musical. On retrouve notamment du trombone, piano, harpe, contrebasse, du Rhodes, du violon, de la steel guitar, je ne les nommerai pas tous, mais ça fait vraiment riche comme arrangements musicaux, belle ambiance qui est parfois calme, parfois planante, parfois un peu plus énergique, mais on reste surtout dans le calme et dans l'ambiance qui nous entoure, qui nous enveloppe, qui nous amène ailleurs. Sa voix rappelle un peu Tire le Coyote. Et bon, faut dire aussi que Benoît Pinette, alias Tire le Coyote, a contribué à certains des textes de l'album. Et il est appuyé également par des choristes, beaucoup de choristes qui poursuivent également des carrières solo. On peut nommer Émilie Klepper, Amélie Veil, Lou-Adrienne Cassidy.
Lou-Adrienne, oui, qui travaille avec Hubert Lenoir également.
Lily Thibodeau, alias Lilithi, et Ariane Roy. Donc, je crois qu'il m'en manque aussi, mais bref, ce sont quand même des noms qu'on connaît, parce que ce sont des artistes émergents aussi qui sont fort talentueuses. Parmi les points forts que j'ai retenus, trois petites chansons dont on va écouter des extraits. La pièce Girouette, qui est la seconde pièce sur laquelle on retrouve une multitude d'instruments. La pièce Hibou, qui est assez rythmée, qui est aussi la pièce titre de l'album. Et Bunker de tes bras, qui a remporté le prix Socan Festival de la chanson de Granby en 2017. Mmh. Alors, on écoute quelques extraits.
Ton cœur est un cube Rubik et moi j'ai les mains pleines de pouces. Mais j'aime pas te voir tout à l'envers, toi qui me remets toujours en ordre. Pourquoi t'accroches-tu aux repères qui te maintiennent dans ton désordre? Si t'as le vent d'en face, revire de bord. J'ai jamais vu une girouette toujours pointée le nord. C'est vrai qu'on fait une drôle de paire au milieu du chemin, mais dans les vents contraires. J'ai du mal à suivre la cadence, je suis toujours en retard d'une mesure. Je me fais rattraper par mes dépendances qui risquent de m'avoir à l'usure. Que l'on vienne me rappeler mes carences, que l'on vienne tester mes fissures. Je ne crains plus la souffrance et j'exposerai mes blessures. Je traverse l'orage, j'apprends à tenir. Avant tu me guidais comme un fort, mais le
je te perds dans les blizzards. Puis je m'excuse si j'arrive toujours en retard au rendez-vous du cœur à la fin. Mais t'es peut-être bien la première à briser l'abri de ma tempête.
C'est intéressant. J'ai pas eu encore la chance d'écouter l'album de Nicolas Gémus encore, l'album Hibou dont tu es en train de parler, qui absolument, ces trois extraits-là sont fascinants. Mais tu vois, tu parlais de folk planant. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus aérien. Je trouve que c'est très grounded root, moi. Je trouve que les instruments nous ramènent à terre pas mal.
Ces pièces-là, oui, mais notamment la pièce intro et la pièce du prologue, ça nous amène un peu dans cette ambiance-là. Mais c'est ça, c'est qu'on varie. Il est pas confiné à un seul style. Il va quand même dans plusieurs directions sans s'éparpiller, mais c'est vraiment...
Il ne perd pas sa signature musicale, mais il nous amène à plein d'endroits, ce qui est super intéressant. Je trouve qu'il y a une petite articulation, une façon de prononcer les mots, surtout dans le premier extrait qu'elle nous a présenté, Girouette, qui ressemble un peu à du Pierre Lapointe.
Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Nicolas Gémus.
J'ai aucun doute, c'est excellent.
Autre artiste, Mathieu Deslongchamps, qui nous revient avec un second EP qui s'intitule « Tenemos Todos ». On est un petit peu dans le monde espagnol pour ceci. C'est sur étiquette Universal. C'est paru également dans les dernières semaines. Qui est Mathieu Deslongchamps? Il est né au Québec d'une chanteuse folk et d'un père guitariste flamenco et harpiste latino. Donc, il a baigné dans la musique pendant son enfance. Il a grandi au Panama, dans une maison sur pilotis que lui-même décrit que c'est un petit peu tiré de Robinson Crusoe. Et ensuite, il a grandi à Paris. Donc, la musique et le monde, c'est comme ça qu'on peut résumer sa jeunesse. Et il s'est enrôlé en musique à l'âge de 16 ou 17 ans, je crois, dans une école anglophone à Paris qui se spécialise en musique. Les influences, on peut parler de Patrick Watson, Bob Dylan, Joni Mitchell, Radiohead, Steve Ray Vaughan, Chet Baker, on pourrait en nommer plusieurs.
OK, fait qu'on est vraiment dans un... Mais moi, je m'attendais peut-être à de la musique du monde un peu plus...
Oui, en fait, le premier album, le premier EP, en fait, qui est paru l'année dernière, qui s'intitule Héros Anonymes, faisait un peu plus dans le francophone. Là, on est plus dans la musique du monde, on est dans la musique latino, mais influencé quand même par la pop. Donc, c'est quand même un beau mélange de styles. Et on va commencer par en écouter un extrait.
Oui, parce qu'on a envie de l'entendre, oui.
Las nubes de febrero. Tenemos, tenemos un rayo de sol. Que llegó entre tú y yo. Car c'est un rêve, mon rêve. Quelque chose de grand. Es un sueño.
Pièce, ça dure 13 minutes, ça passe quand même assez vite. Puis c'est quatre pièces qui sont quand même quatre couleurs mais assez différentes.
Le mot qui me vient, c'est éclectique. Là. Mm-hmm.
Absolument. Moi, je retrouve un peu de Manu Chao, pas tant pour la sonorité, mais pour l'accessibilité du son. À quel point c'est pas trop niché. Pour les couleurs, je retrouve un peu de Thomas Jensen dans ça, mais je retrouve surtout beaucoup de Mathieu Deslongchamps. Donc, c'est quand même une signature assez unique. Oui, bon, c'est cliché, Manuel. Ne roule pas les yeux comme ça. Mais c'est influencé de pop, de reggae acoustique.
Mais je le sais que tu le penses. Si tu nous parles, si tu nous en parles, c'est parce que tu le penses. Puis effectivement, sérieux, j'ai découvert quelque chose. Il m'amène à des places. J'ai besoin d'une deuxième écoute. D'ailleurs, le premier extrait, je ne connais pas la chanson, mais il y avait deux mix.
La pièce-titre, deux mix, en effet, de Tenemos Todo.
Si mon oreille est bonne.
Plus reggae acoustique.
Oui. Que j'ai adoré.
Pop, quoique, il y a quand même beaucoup de...
Mais on revient, il y a un peu de soul là-dedans, il y a un peu de bluesy, mais pas trop. Puis et le son utilisé est très vintage. On se ramène ça à un mix après ça, beaucoup plus ouvert. En tout cas, c'est vraiment intéressant.
Donc, on rappelle Mathieu Deslongchamps, Tenemos Todo, un petit EP, quatre chansons, qui est paru sur l'étiquette Universal.
Merci beaucoup d'avoir fait un Christophe Colomb de la musique de toi-même, Jean-Sébastien Laliberté, pour nous cette semaine.
Merci.
Retour au début des années 90, 89 même, moi, je pense. Me semble que j'avais comme 4 ans, puis je chantais ça en passant un faux chiffon avec un faux... Quand c'était le temps d'aider ma mère, par contre, pour le vrai ménage, on dirait que j'étais plus absente. Moi, j'écoutais Martine Sinclair, qu'on vient d'entendre avec Laver, Laver. C'était beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux. Et non seulement ça, mais Camille, c'est en lien quand même avec ce dont tu vas nous parler.
Oui, c'est un petit peu concept.
Un petit peu concept, parce que... on a des produits à la maison, on parle beaucoup aussi de... en fait... je trouve qu'on essaie davantage d'être biodégradable, d'être éco-responsable à la maison, tant sur le plan, de l'entretien ménager, mais non seulement ça, il y a beaucoup de choses à la maison qu'on a et qu'on ne sait pas que ça peut servir un milliard d'affaires. Et c'est le cas de la petite bâche.
Exactement. Je suis même excitée de faire cette chronique là-dessus, de vous parler du bicarbonate de soude qu'on appelle aussi bicarbonate de sodium. Je vais évidemment vous nommer tous les bienfaits, toutes les utilités en fait qu'on peut faire avec le fameux bicarbonate de soude. Mais avant tout, moi j'ai quand même une curiosité, je me suis dit, mais d'où vient ce truc, d'où vient ce produit, hein? C'est quoi en fait du bicarbonate de soude? Et en fait c'est une recherche très simple sur Wikipédia, mais juste pour vous donner une idée, le bicarbonate de soude date du monde des Égyptiens, de l'Antiquité. Eux connaissaient déjà cette petite poudre blanche. Elle était retrouvée sur les bords des eaux saumâtres des nombreux lacs africains. C'était souvent à côté des efflorescences. Bon, là, c'est des détails techniques, mais on parle de natron, de minéral à base d'un sel d'écailles hydratées, peu importe. Tout ça pour dire qu'il l'utilisait beaucoup pour les rituels d'embaumement, par exemple.
Et?
Ils pouvaient l'utiliser pour leur hygiène, justement, l'hygiène corporelle.
Ça veut-tu dire que c'est impliqué dans la momification? Parce qu'en Égypte, ils momifiaient énormément, donc...
Oui, ben ça faisait partie de leur procédé. Donc, ça date de quand même très loin. Et le voyageur Michel de Montaigne, lui, dans ses écrits de voyage, décrivait le bicarbonate de soude comme étant une eau à écume blanche qui se fixe. Donc, c'est comme une croûte dure qui est à la surface de l'eau, qui s'incruste et qui reste aussi ferme que la glace. Ensuite, on parle de raffinage donc industriel de ce produit-là pour donner le fameux bicarbonate de soude comme on le connaît. Et en 1846, il y a deux boulangers new-yorkais. Là, vous excuserez ma prononciation, mais c'est John Dewitt et Austin Church. Bon, peu importe.
Parfait. Deux sur dix.
Qui, eux, ont pu transformer ce produit-là pour l'utiliser dans leur cuisine, dans leur pâtisserie et tout ça. Et là, donc, moi, en fait, je connaissais... Ben, d'ailleurs, toi, Emmanuel, j'ai envie de te demander, tu parles de la petite vache. Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Est-ce que tu l'utilises, toi?
Ben, moi, actuellement, pas pour la momification, mais...
tu me rassures.
À la maison. Mais étrangement, bon, ceux qui ne savent pas, où on en a parlé souvent, j'ai deux chapeaux. J'ai aussi le chapeau de chanteuse. Et le gargarisme au miel, au gros sel et au bicarbonate de soude, ça fait partie vraiment d'une hygiène de corde vocale que j'ai.
Ben, tu vois.
Dans l'eau chaude.
Je suis contente d'apprendre ça.
Oui.
Bon, alors toi, c'est pour te gargariser
la
gorge. Oui,
c'est la seule utilisation que je fais du bicarbonate de soude, en fait.
Une autre qu'on connaît beaucoup, hein, c'est aussi d'en mettre dans le réfrigérateur pour absorber les mauvaises odeurs. Mais là, c'est pour ça que je vous dis...
Ça, je le faisais avant, mais là, je ne l'ai pas fait là, mais je l'ai déjà fait, oui.
Mais écoutez, il y a tellement de façons dont vous pouvez l'utiliser. Puis il faut savoir que ça ne coûte pas cher non plus. Hein. On trouve ça dans les épiceries, dans les grandes surfaces, les Walmart, toutes des boutiques de ce type-là. Donc, on parle de le mettre, par exemple, pour les mauvaises odeurs dans la fameuse poubelle de la cuisine ou la poubelle à couche pour ceux qui ont des enfants. Ça peut nettoyer le canapé. Alors souvent, on va utiliser la poudre, on va tout simplement la saupoudrer sur le canapé, sur les coussins, le tissu. On laisse agir quelques heures.
À sec?
Oui, à sec. C'est ce qui est génial aussi. C'est très facile à utiliser. Et quand on juge que ça a passé assez de temps, moi je pense qu'en quelques heures, ça fait déjà un très beau travail, on a tout simplement besoin de passer un coup d'aspirateur dessus. Et
ça part avec les taches.
Ça enlève, oui. Ça peut aussi enlever les taches. On va parler de le mélanger avec un petit peu de vinaigre blanc, un peu d'eau. Donc, c'est vraiment merveilleux. Ça remplace, donc, dans la cuisine, la levure chimique, comme on l'avait dit. Mm-hmm. Ça nettoie les fruits et légumes. Hein. Souvent, on parle des pesticides.
On a parlé de ça. Hey, on a parlé de ça. Je suis allée en camping en famille il y a deux semaines. Hein. On en a parlé même en monde ici, si vous étiez des nôtres. En tout cas, vous vous en rappelez peut-être de cette ode au camping qu'on a fait en plus. Et on parlait de kale. On s'est mis à parler de divers fruits. Et ma cousine m'informait que le kale était le légume où il y a le plus de pesticides.
Parce qu'il les absorbe.
Ça me troublait. Puis elle me dit, tu les laves-tu comme il faut? Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par laver comme il faut? Parce que moi, je mange énormément de kale. Elle m'a dit, mais tu sais, puis elle me parlait de vinaigre, bicarbonate de soude, ça. Puis je suis comme, pas en tout. Mais
tu vois, moi, je pense que c'est vraiment un bon truc à prendre.
Mais oui.
Écoute, j'ai commencé, sachant que je voulais vous parler du bicarbonate de soude, je l'ai testé moi-même depuis quelques jours.
C'est vrai?
En tant que pour un désodorisant, de juste le mettre avec un peu d'eau pour que ça fasse comme une pâte. Puis juste au bout des doigts, ou alors si on veut prendre une petite débarbouillette ou quelque chose comme ça, de se le passer en dessous des aisselles, franchement, là, ça fonctionne très, 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 très bien.
C'est vrai, donc on pourrait se faire même un petit pot.
Oui, un petit maison. Pot à côté du lavabo. Wow. Et on trempe. Après, par contre, je vous dis, je l'ai aussi testé quand on dit pour rince-bouche, tout simplement, ouais. pour la laine, ouais. pour tout ça. Je l'ai testé, ça a quand même un goût particulier.
C'est pas le fun.
Non, c'est pas très agréable. Après, je pense qu'on peut le mélanger, par exemple, avec de l'huile essentielle à la menthe, menthe poivrée, des choses comme ça. Mais de temps en temps, ça peut quand même faire du bien. On parle de... Donc oui, ça débouche les canalisations, ça fait briller les lavabos. On peut décrasser la machine à laver en faisant tourner la machine sur un cycle à vide, mais avec de l'eau, le bicarbonate de soude et le fameux vinaigre blanc. Vous pouvez aller voir sur Internet hein, pour connaître un petit peu les quantités.
La recette.
La recette, ouais. exactement. Ça nettoie les poils brûlés, toutes ces choses-là, le chrome, l'argenterie. On peut aussi conserver les fleurs plus longtemps. Dans notre vase. Mmh. Tu vois, c'est incroyable.
On met jamais du bicarbonate de soude dans l'eau?
Oui, il faut ajouter une cuillère à café de bicarbonate dans le vase et vous allez voir que vos fleurs vont se porter encore mieux. Les mauvaises odeurs dans les chaussures. Ça, je pense qu'on est quand même plusieurs à le vivre.
Moi, j'ai plein de problèmes, mais celui-là, ça va encore. Ouais. En tout cas, ouais.
Mais quand même. C'est un très bon truc. Donc,
mais je le mettrais dans la poubelle, par exemple.
Oui.
Surtout cet été, là, il fait pas super froid, hein, on va se
non,
le dire.
Non, c'est ça.
Et on veut pas non plus changer le sac à tous les jours parce que c'est pas côté plastique, c'est pas gagnant.
Effectivement.
Ça, je le prendrais.
Et au côté beauté aussi, ça peut être un gommage pour le visage mélangé avec un petit peu d'huile de coco. Et si on veut prendre un petit bain pour se reposer, un petit bain de sel, ben on va aussi saupoudrer le bicarbonate de soude dans l'eau. La peau va être plus douce aussi. Et il y a des personnes qui disent qu'ils mettent un peu de cette poudre-là dans leur trousse de premiers soins. Parce que ce soit pour une piqûre d'abeille, de moustique, ou même pour les piqûres de guêpe ou les fameuses piqûres des méduses. Ils disent qu'il faut, donc quand par exemple on se fait piquer par une méduse, il faut racler la peau pour enlever en fait ce que la méduse a sécrété sur la peau. Et avec il faut préparer une petite pâte avec le vinaigre et le bicarbonate et ça va vraiment soulager la brûlure. Donc, c'est un très bon truc si
Mais
vous avez des enfants.
Mais ça coupe l'air
aussi.
Ça doit être ça, tu sais. Tu mets sur toi. Puis c'est propre. Ça doit être en tout cas désinfectant, j'imagine. Mais la logique, ce serait que ça coupe l'air de la brûlure.
Voilà. Donc, ça a vraiment plein d'effets bénéfiques.
C'est intuitif, mon affaire.
Je suis sûre que ça a cet effet-là aussi. Ouais. Et ceux qui ont des animaux, hein, les fameux petits accidents des animaux sur le sofa ou sur le tapis, ben encore une fois, on le met à sec, on le laisse agir. Et même en parlant de l'animal lui-même, nettoyage à sec, on peut saupoudrer sur le pelage du chien, par exemple, pour enlever. Il y a des chiens, des fois, qui sentent fort. Donc, juste de le saupoudrer. Après ça, on le brosse. Et donc, le bicarbonate qui va tomber sur votre plancher va aussi faire office de nettoyant pour faire briller votre plancher. Donc, c'est un 2-pour-1.
Une pierre de coup,
exactement. Que ce soit pour évidemment nettoyer les matelas aussi, vous faites la même chose. Je termine avec un petit clin d'œil mignon en signe de décoration aussi, parce que là, on l'ingère, on peut le consommer, l'utiliser pour nettoyer des choses, pour avoir un effet couche de neige à votre sapin de Noël.
Pardon? Ah, ben oui!
Ben oui, tout simplement.
Ça se nettoie vraiment mieux, ça passe, tu sais, tu passes l'aspirateur. Ça se nettoie vraiment mieux que les fameux glaçons qui se ramassent pas.
Les choses qui vont plus coller au sol ou des choses comme ça. Donc, très bon truc.
Hey, mais Camille, j'ai tellement appris beaucoup de choses. Je n'utilisais pas le bicarbonate de soude à sa juste valeur. Et sincèrement, oui, parce que pour vrai, surtout que je veux essayer le déodorant.
Oui.
Puis je vais re-regarder une couple de points parce que j'ai pas malheureusement. Je t'écoutais avec trop d'attention, j'ai pas pris de notes. Mais il y a beaucoup de choses qui sont super intéressante. Merci beaucoup de nous aider dans notre quotidien.
C'était un plaisir.
Et de fermer cette édition du 10 juillet d'Aime l'été si magnifiquement et de manière si ingénieuse. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Et Aime l'été, ça recommence demain, 11h30. Ce sera moi et Kevin Breton. Merci Maurice Bolduc. Merci Claire. Merci Louis Garon à la coordination. Merci tout le monde. À demain. Bye.